aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Soudan, la contestation durcit le ton après le discours du général Bourhan, chef du conseil militaire. En République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre Ebola dépasse le cap des 2000 personnes infectées. Deuxième jour de la visite du président Donald Trump en Grande-Bretagne, il s'est entretenu avec Theresa May, puis Boris Johnson, donné favori pour devenir Premier ministre. Reportage au Gabon, où les musulmans ont célébré aujourd'hui la fin du Ramadan.
La fin du Ramadan, c'est toujours l'occasion de revoir un petit peu le bilan de l'année et voir ce qu'on a fait de bien et de mal.
Voilà, ça sera en fin de cette édition également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Soudan, le mouvement de contestation a appelé à poursuivre la mobilisation, rejetant l'appel à des élections par les militaires au pouvoir. Nous faisons le point avec Yacouba Ouédraogo.
Ce matin, les rues de Khartoum étaient quasiment désertes. La plupart des commerces ont fermé boutique. De nombreuses routes étaient bloquées par des pierres, des troncs d'arbres et des pneus. Les militaires ont annoncé qu'ils annulaient les mesures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord avec les contestataires. Ils ont appelé à des élections dans 9 mois. Cette annonce est intervenue au lendemain de la dispersion musclée du sit-in des manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Il y a eu plus de 35 morts et des centaines de blessés selon des médecins proches de la contestation. Le conseil militaire de transition a évoqué une opération de nettoyage qui a mal tourné près de la zone du sit-in. Il a promis une enquête. Les manifestants ont qualifié ce discours de pièce de théâtre mensongère. Ils ont ajouté que, je cite, « la grève et la désobéissance civile totale se poursuivent jusqu'au renversement du régime ». Londres et Berlin ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Au Cameroun, un cadre du parti de l'opposition MRC écroué ce mardi à la prison centrale de Yaoundé. Monsieur Mamadou Mota assurait l'intérim de l'opposant Maurice Kamto, actuellement en détention. Hier soir, certains militants du MRC, arrêtés samedi dernier lors de la marche dite blanche et pacifique, ces militants ont commencé à être relaxés. Le point à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Le vice-président national du MRC, Mamadou Mouta, avait appelé aux marches du 1er juin dernier. Monsieur Mouta a été écroué ce mardi, ainsi qu'une trentaine d'autres personnes, à la prison centrale de Yaoundé, selon les avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourtant, lundi soir, Olivier Bibou-Missak, porte-parole de l'opposant Maurice Kamto, a annoncé le début de la libération de certains manifestants. Ils sont plus de 70 à avoir été libérés ce soir, a affirmé Monsieur Missak, précisant par ailleurs, je cite, « certains manifestants libérés étaient détenus les uns dans les services des renseignements généraux et les autres dans l'enceinte du secrétaire d'État à la Défense. » Fin de citation. Dans un communiqué rendu public le 1er juin, le porte-parole du MRC a dénoncé l'interpellation de 354 manifestants qui, selon lui, ont été privés d'assistance juridique. L'opposant Kamto revendique la victoire à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. En fin janvier, il a été arrêté à Douala et placé en détention provisoire dans une prison à Yaoundé. Ses militants appellent à sa libération à travers des marches dites blanches et pacifiques. Les prochaines sont prévues le 8 juin, mais elles sont d'ores et déjà interdites par les autorités administratives. Yaoundé, Emmanuel Julunta, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, Robert Zongo, le frère du journaliste Norbert Zongo, assassiné en 1998, a qualifié de salutaire l'accord de la justice française pour l'extradition de François Compaoré, soupçonné dans cette affaire. Le peuple burkinabé aura toujours soif de justice dans l'affaire Norbert Zongo, a-t-il ajouté. La Cour de cassation française a validé ce mardi l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, mais il faudra attendre le feu vert du gouvernement français qui peut aussi faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'État. Le président tchadien Idriss Déby a dénoncé ce mardi de fortes complicités locales avec le groupe nigérian Boko Haram dans la région du lac Tchad. Le président Déby a appelé à dénoncer tous ceux qui servent de relais aux terroristes. La multiplication des attaques terroristes dans la région du lac Tchad doit nous préoccuper à plus d'un titre, a-t-il ajouté. 4 militaires tchadiens et un journaliste de la télévision nationale ont été tués samedi. Leur véhicule a sauté sur une mine alors qu'ils se rendaient sur une position de l'armée attaquée par Boko Haram. Depuis juin 2018, au moins 8 attaques de Boko Haram ont eu lieu en territoire tchadien. Au Ghana, des défenseurs de l'environnement protestent contre un projet de mine de bauxite. Ils accusent le président Nana Akufo-Addo d'avoir l'intention d'extraire de la bauxite dans une réserve forestière qui priverait l'accès de millions de personnes à une eau potable. Le gouvernement envisage l'exploitation minière dans la réserve forestière d'Atewa, dans l'est du pays. Au Sénégal, au moins 10 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres blessées dans une collision entre un camion et un autocar dans le nord du pays. L'autocar ramenait des commerçants venus à Saint-Louis lorsqu'il est entré en collision avec un camion. La fête de l'Aïd, appelée Korité au Sénégal, a été célébrée mardi, mais d'autres fidèles le célébreront mercredi ou jeudi en fonction de la décision attendue ce soir d'une commission chargée de scruter le croissant lunaire. L'épidémie d'Ebola s'aggrave dans l'est de la RDC alors que la région continue de faire face aux attaques des groupes armés. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le dernier bilan publié par les autorités sanitaires congolaises recense plus de 2000 victimes de la fièvre hémorragique. C'est une triste et frustrante étape, a déclaré à Genève le porte-parole de l'OMS, Tariq Djassarevic, qui a déploré la persistance des attaques des groupes armés, une entrave majeure à la lutte contre l'Ebola. Les autorités congolaises se félicitent tout de même d'une réduction du nombre de telles attaques, ce qui, disent-elles, a permis aux équipes médicales de reprendre l'initiative contre le virus Ebola. Autre bonne nouvelle, le virus reste pour l'heure contenu dans la province du Nord-Kivu. Estimant que la réponse actuelle contre l'épidémie n'est pas adéquate, Oxfam et la Croix-Rouge Croissant Rouge ont pour leur part demandé qu'elle soit réinitialisée. Il s'agit de reconstruire la confiance avec les communautés locales, qui est essentielle pour gagner la bataille contre le virus Ebola, a souligné Corinne Dao, directrice de l'ONG Oxfam en République démocratique du Congo.
RDC toujours, des experts de l'ONU chargés d'évaluer la lutte contre l'impunité en RDC après des violences meurtrières au Kasaï en 2016 et 2017. Ces experts ont appelé aujourd'hui la justice congolaise, militaire congolaise, à accélérer le tempo et à élargir les enquêtes. Leur rapport devrait être présenté lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme du 24 juin au 12 juillet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président américain Donald Trump, qui effectue une visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni, a assuré à Londres que tout est sur la table dans la future négociation post-Brexit pour un accord de libre-échange entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nathalie Barge.
Donald Trump s'est dit prêt à conclure un accord commercial extraordinaire avec Londres pour l'après-Brexit, alors que les Britanniques comptent beaucoup sur leurs partenaires américains. Theresa May, dont la démission est annoncée pour le 7 juin, a de son côté souligné que les deux pays étaient très attachés à la conclusion d'un accord de libre-échange ambitieux lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Sur le dossier Huawei, M. Trump s'est dit absolument sûr de la possibilité d'aboutir à un accord avec le Royaume-Uni sur le groupe chinois de télécom, alors que Washington menace ses alliés occidentaux de limiter les échanges de renseignements s'ils impliquent Huawei dans leur réseau 5G. Le président américain a affirmé avoir refusé de rencontrer le travailliste Jeremy Corbyn, chef du principal parti d'opposition britannique, le décrivant comme une force négative. M. Trump a également assuré ne pas avoir vraiment vu de protestation contre sa visite, avant de préciser en avoir vu une très petite et d'ajouter que c'était des fake news.
Le Mexique a insisté aujourd'hui sur la possibilité d'un accord afin d'éviter les tarifs douaniers que Donald Trump veut imposer aux importations mexicaines, mais sans faire fléchir le président américain qui a encore appelé à stopper l'invasion de migrants, ce sont ses termes. Demain, le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard, doit rencontrer son homologue américain Mike Pompeo à Washington. À Hong Kong, des milliers de personnes se sont réunies ce soir pour la traditionnelle veillée aux chandelles de la mémoire des victimes de la répression sanglante des manifestations de la place Tiananmen il y a 30 ans à Pékin. Hong Kong est le seul endroit de Chine où une telle commémoration est possible. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Eni, la compagnie pétrolière italienne, vient de découvrir un important gisement de pétrole léger dans le puits d'exploration Adidigbo 1 NFW en Angola. Le gisement pourrait contenir entre 300 et 400 millions de barils ainsi que du gaz. C'est la cinquième découverte sur ce périmètre depuis le démarrage des explorations. Les cinq découvertes d'Eni pourraient contenir jusqu'à 1,8 milliard de barils de pétrole léger et feront l'objet d'une campagne d'évaluation en début d'année prochaine. Après près de deux ans d'absence du marché régional des titres publics émis par adjudication, le Sénégal effectue ce jeudi 6 juin 2019 son grand retour à travers une émission simultanée de trois lignes d'obligations assimilables du Trésor pour un montant de 50 milliards de francs CFA sur des maturités respectives de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Ce retour du Sénégal constitue une bonne nouvelle pour le marché régional des titres publics émis par adjudication. Pour terminer, le FMI appelle la France à procéder à un effort budgétaire structurel ambitieux afin de réduire sa dette publique. Certes, cette année, la prévision de croissance du pays reste inchangée à 1,3% grâce à une économie résiliente, en partie grâce aux réformes importantes qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Mais les risques extérieurs ont augmenté et les problèmes structurels persistent à cause de la dette publique et privée élevée et d'un chômage structurel encore élevé.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le tribunal arbitral a rejeté les appels des Comores contre le Cameroun.
Oui, le tribunal arbitral du sport a débouté la Fédération de football des Comores. Jugeant ces appels irrécevables, l'instance comorienne avait saisi le tribunal afin d'être réintégré à la CAN. Les Comoriens estimaient que la CAF n'avait pas appliqué son règlement en ne sanctionnant pas le Cameroun incapable d'assurer l'organisation de l'épreuve, finalement confiée à l'Égypte. Le TAS a jugé irrécevables les deux appels déposés par les Comores en janvier puis en février. Les juges arbitraux estiment, je cite, que même en cas de disqualification du Cameroun, cela n'aurait aucune incidence sur le classement des Comores dans leur groupe de qualification pour la CAN 2019 et qu'il lui était ainsi mathématiquement impossible de se qualifier pour cette compétition.
La FIFA lève la suspension de la Fédération de la Sierra Leone.
Oui, la Fédération internationale a pris cette décision après l'acquittement de l'ex-présidente de l'instance Sierra Leonaise et de son secrétaire général. Ils étaient accusés d'avoir détourné un don de 50 000 dollars de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. La FIFA avait suspendu en octobre la Fédération Sierra Leonaise de football en dénonçant le limogeage en septembre d'Isha Johansen, alors présidente, et Chris Camara, secrétaire général, comme une ingérence des autorités politique dans le fonctionnement de la fédération. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone pour la CAN 2019 avaient été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre.
Le Real recrute le prometteur serbe Luka Jovic.
Oui, le jeune attaquant international serbe de 21 ans qui évoluait la saison dernière à Francfort a signé un contrat de 6 ans avec le Real Madrid. Selon Marca, le club madrilène a déboursé environ 60 millions d'euros pour s'offrir Luka Jovic, 4 sélections, 1 but, avec 5 millions d'euros en option. En Allemagne, des médias montent la barre jusqu'à 70 millions. Le Serbe a marqué les esprits en terminant deuxième meilleur buteur de la Ligue Europa avec 10 réalisations. En Bundesliga, Jovic s'est aussi illustré en se classant troisième meilleur buteur avec 17 buts.
Roulen Lopetegui est le nouvel entraîneur du FC Séville.
L'ancien sélectionneur de la Rora, renvoyé juste avant le dernier mondial, a été nommé entraîneur du FC Séville pour les trois prochaines saisons. Le Basque de 53 ans était sans équipe depuis son renvoi fin octobre du Real Madrid, après un début de saison décevant pour les géants madrilènes. Lopetegui devra notamment disputer la Ligue Europa, compétition favorite des Sévillans qui l'ont remporté 5 fois, un record. Il succède ainsi à Joaquín Caparrós qui a annoncé après la fin de la saison renoncer à entraîner le club une saison supplémentaire.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous pour la seconde partie du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place au dossier du jour. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de cesser les négociations avec l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation. Le mouvement de contestation a aussitôt annoncé la poursuite de la grève et la désobéissance civile jusqu'au renversement du régime. Sur le discours du général Burhan, Idriss Fall a recueilli la réaction de Mohamed Nagui, directeur de la tribune du Soudan à Paris.
C'est le discours du général Burhan. Il vient après une déclaration qui a été faite par l'opposition soudanaise, les forces pour la liberté et le changement au Soudan, où ils avaient déjà déclaré la grève générale dans le pays jusqu'à ce que ce régime soit renversé. Ça, avant, son porte-parole disait que nous, on n'a pas fait exprès, on n'a pas tué les gens comme ça, c'était pas voulu, que c'était un gros mensonge, qu'on voyait très bien que les miliciens étaient là, ils savaient bien ce qu'ils faisaient, etc. Donc, Al-Burhan, il a réagi. Il n'a pas agi. Il voulait se positionner par rapport à l'opposition soudanaise.
Mais au lendemain d'une répression sanglante à Khartoum, donc maintenant, on se dirige vers quoi?
Il y a tous les scénarios. Le scénario d'abord qui est déjà en place, la confrontation totale. On a déjà l'opposition depuis hier. Elle a décrété la grève générale dans le pays. Ils sont même allés faire quelque chose qui est phénoménal. Ils ont décrété qu'aujourd'hui, c'est l'Eid, alors que le gouvernement disait que l'Eid était demain, mercredi. Il y a beaucoup de musulmans qui ont fait la fête aujourd'hui, comme symbole de cet état de défiance, le bras de fer dans lequel les deux parties se sont engagées.
La communauté internationale dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire?
La communauté internationale, dans un premier temps, elle a condamné l'assassinat. Les miliciens, ils sont venus à l'aube, au fait, vers 4h, 4h demi, ils sont venus, ils ont attaché des gens qui étaient là. Ça a été condamné unanimement par la communauté internationale et aussi par l'Union africaine. L'Union africaine, sa position est importante dans la mesure où il a donné déjà un délai de 2 mois qui va terminer le 30 juin. Si Khartoum n'auront pas le pouvoir, un gouvernement civil, ils vont appliquer les sanctions. Le Soudan, sur son adhésion, va être suspendu. Mais aussi, ils vont demander, via les Nations Unies, au Conseil de sécurité, donc, d'imposer des sanctions individuelles contre les dirigeants militaires.
Les Américains aussi ont tapé du poing sur la table hier.
Tout le monde a condamné, tout le monde les a menacés. Il a menacé les militaires. Et tout le monde leur a dit, si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Et même l'Union africaine va être amenée à aller dans cette logique. Donc là, dans cet engrenage, dans cette dynamique, l'Union africaine même est amenée à aller au bout de sa logique. Bon, il y a des gens qui vont me dire, mais ces gens-là, ils sont soutenus par les pays de Golfe.
L'Arabie saoudite, oui.
Mais cela ne vaut rien dans la balance des choses. Même si les Saoudiens et les Émiratis, ils veulent bien que les militaires restent parce qu'ils sont leurs alliés, leurs copains, et qu'ils vont garantir, n'est-ce pas, la continuation des troupes soudanaises dans la guerre du Yémen, qu'ils ne peuvent pas faire face, j'allais dire, à la communauté internationale.
C'était Mohamed Nagui, il est directeur de la tribune du Soudan. Il était joint à Paris.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la visite d'État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni et son déplacement en France pour le 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Nous en profiterons pour faire le point sur les relations entre les États-Unis et l'Europe en cette fin de mandat du président Trump. Y a-t-il eu bouleversement dans le rapport ou au contraire, les liens sont-ils toujours aussi solides? attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Sénégal, un reportage de la BBC intitulé « Un scandale de 10 milliards de dollars » met en cause Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Dans une conférence de presse hier, le frère du président a apporté des démentis et a annoncé une plainte contre la BBC. Du côté de la classe politique et de la société civile, des voix s'élèvent pour que des actions plus efficaces soient mises en œuvre pour éviter ce genre de scandale. De notre correspondant à Dakar, le reportage de Sedina Abagay.
Cette affaire est complexe car il pose un problème éthique, juridique et politique. Tels sont les propos d'Aliou Tine, expert indépendant des Nations Unies. Pour lui, même si le frère du président bénéficie de la présomption d'innocence, il doit démissionner de ses postes étatiques pour que l'enquête puisse se dérouler convenablement.
Il a bien fait de porter plainte, parce que la meilleure des solutions pour son honneur, d'ailleurs, son honneur, parce qu'il doit démissionner. Mettre à l'aise le président de la République, mettre à l'aise la justice sénégalaise, et effectivement, une fois que vraiment son honneur sera lavé, bien sûr, ça va. De deux, je pense que c'est très difficile d'être à la fois dans le public, dans le privé, et en même temps avoir une parenté dans l'administration. Ça pose des problèmes.
Pour apporter des éclairages et faire la lumière sur cette affaire, le frère du président Aliou Sall s'est dit prêt à répondre à une commission d'enquête parlementaire, mais pour le député Mamoudou Diop de Croix, ce ne serait pas judicieux.
Je ne sais pas, le procureur de la République, dans des cas comme ça, est-ce qu'il ne doit pas s'autosaisir? Et voilà, les commissions d'enquête parlementaires sont un droit de l'Assemblée, que l'Assemblée n'utilise pratiquement jamais. Je n'y crois pas. Depuis 7 ans, 8 ans, on parle tellement de scandales, vous n'avez jamais vu de commission d'enquête. Lorsque l'Assemblée et la majorité politisent tout, comment vous voulez que moi je puisse croire à une commission d'enquête?
De son côté, l'ingénieur géologue Farindaou estime que le Sénégal doit rendre obligatoires les appels d'offres et prévenir les conflits d'intérêts liés à la parenté en renforçant le dispositif judiciaire.
Et donc l'idée, c'est pour éviter cela, pour se servir de l'expérience malheureuse d'autres pays africains, qu'au Sénégal, on légifère sur la parenté et de dire que toutes les personnes du premier degré, donc de familial, c'est-à-dire des pères, mères, frères, sœurs, oncles, tantes, qu'ils ne puissent pas bénéficier de contrats ou gagner des contrats de service ou autres lorsqu'ils dirigent ou ils sont actionnaires majoritaires. Où il représente une société pour laquelle les droits doivent être validés par soi une haute autorité.
En attendant la suite que la justice sénégalaise va donner à cette affaire, les avocats d'Aliou Sall comptent porter plainte contre la BBC, ce devant les juridictions nationales et internationales, pour laver, disent-ils, l'honneur de leurs clients. À Dakar, Sedina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. L'Aïd El Fitr, placée sous le signe du pardon dans les lieux de culte au Gabon, la grande prière de la fête s'est déroulée à la mosquée Hassan II de Libreville. Une absence de taille à ce grand rassemblement religieux, celle du raïs de la communauté Ali Bongo Ondimba. Ambiance de fête à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
La cérémonie marquant la fin du ramadan s'est déroulée à la mosquée Hassan II de Libreville. Pour Othman Hicham, c'est le temps de la rédemption.
C'est toujours une nouvelle vie. La fin du ramadan, c'est toujours l'occasion de revoir un petit peu le bilan de l'année et voir ce qu'on a fait de bien et de mal. Essayer d'améliorer soi-même, sa famille.
Sur l'esplanade de la mosquée ou à l'extérieur, l'heure est au regroupement communautaire avec des discussions qui se soldent par des invitations au grand repas de fin du ramadan. Tankara Boukoum sort de la prière avec une pensée pour sa famille restée au Mali.
Le pays, même sans le ramadan, on pense aux parents. La principale raison pour laquelle ils sont là, c'est surtout pour soutenir la famille, pour soutenir la famille, les parents. Donc pour moi, le ramadan est un mois quand même très dur. Je suis absolument étranger aux parents, mais venir à Amen.
Comme beaucoup d'autres femmes musulmanes, Maria Missembe est pressée d'aller organiser le festin à la maison.
Je vais recevoir quelques amis, je vais m'organiser en famille. Voilà, c'est une fête d'amour, donc je vais recevoir quelques amis avec ma famille. Nous avons partagé un peu de temps.
Par tradition, il faut aussi rendre visite à ses proches. C'est la dimension sociale de la fête qui est aussi synonyme de l'observation du troisième pilier de l'islam. Diallo Amadou, fidèle musulman.
Ce qui me fait plaisir, je me retrouve en face à la fin d'un mois béni. Deux mois d'adoration, deux mois de pénitence, deux mois qui remplit de tout le bonheur que l'homme sert en tant que religieux, en tant que musulman. Tout un musulman rêve de terminer les 30 jours du mois de carême en bonne santé avec tous les frères musulmans. Je souhaite bonne fête à tous les musulmans du monde. Et que la paix règne sur la terre et que le musulman soit dans la bonne santé et dans la guidance de Dieu.
Le raïs de la communauté musulmane du Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, n'était pas de la prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Hassan II de Libreville. Une telle absence n'est pas passée inaperçue. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
La fête de l'Aïd el-Fitr est aussi célébrée ce mardi au Burkina. Des milliers de musulmans ont prié dans la capitale burkinabé. Des membres du gouvernement, aux autorités coutumières et religieuses, tous étaient aux côtés des musulmans pour la grande prière marquant la fin du Ramadan. Les prêches et invocations ont porté sur la paix et la stabilité dans ce pays qui a subi de nombreuses attaques d'extrémistes musulmans. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Place de la Nation, au cœur de Ouagadougou, des milliers de musulmans, la plupart en boubou blanc, viennent ici pour prier. Une prière qui marque la fin du mois de jeûne et de pénitence.
Aujourd'hui marque la fin de 29 jours d'intense prière, 29 jours de privation.
El Hadj Noun Dianda, membre du comité d'organisation de l'Aïd el-Fitr.
Aujourd'hui, nous célébrons Dieu, nous célébrons sa gloire et c'est l'occasion aujourd'hui d'exprimer notre solidarité entre nous dans la famille, entre nous frères, entre nous collègues et nous avons vu qu'au bout de ces journées de privation, chacun a compris ce que c'est que la faim, chacun a compris ce que c'est que la soif.
Les musulmans ont aussi prié pour la paix et la stabilité au Burkina. Yacouba Kindo est infidèle.
Vraiment, on a demandé la paix pour le Burkina Faso, la cohésion. On a prié Dieu pour que les terroristes nous laissent en paix, pour que bon, la paix revienne au Burkina Faso.
Nous n'avons pas de patrie, nous n'avons que le Burkina qui est notre patrie.
El Hadj Noun Dianda, membre du comité d'organisation de l'Aïd el-Fitr.
C'est une obligation pour nous de prier pour la paix. Et tout ce que nous vivons comme situation d'insécurité, c'est une épreuve voulue par Dieu pour nous amener tous à aimer notre pays et à savoir que la sécurité que nous vivons tout le temps, c'est une richesse que nous devons travailler à préserver.
Des membres du gouvernement, des autorités coutumières et différentes confessions religieuses étaient aux côtés des musulmans, en signe de solidarité. Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou.
Que le Seigneur nous rapproche les uns des autres pour qu'ensemble nous puissions dialoguer et construire un monde de paix, un monde de fraternité.
Toutes les communautés religieuses de ce pays sont en communion pour que notre pays puisse avancer vers le développement.
Christophe Dabiré, Premier ministre.
Les prières qui ont été faites, les bénédictions qui ont été faites pour le pays, c'est pour que la paix revienne dans ce pays. Notre vivre ensemble qui a été mis à mal par le terrorisme, par le délitement de la cohésion sociale, que notre pays retrouve le calme et la sérénité.
Depuis 2016, des attaques terroristes ont fait plus de 300 morts au Burkina. Ces derniers mois, plusieurs lieux de culte, des églises et des mosquées ont été la cible d'attaques meurtrières. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ah.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Sidrac Franklin. À la présentation, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité avec Henri Francisque. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.